France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Russie. Le week-end a ouvert beaucoup de portes d'entrée. Des élections locales décevantes pour Vladimir Poutine, des prisonniers échangés avec l'Ukraine, des rendez-vous diplomatiques avec la France. On va essayer de comprendre tout ça en un seul morceau, finalement. Le bruit du monde est en Inde, avec une association qui essaye de faire reculer la désertification. Et avec Amélie Perrier aussi, notamment dans une prison éthiopienne ouverte au public désormais. 18h50, le monde selon Trump et Grégory Philippe, c'est la rentrée parlementaire et les démocrates semblent être en ordre de bataille. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four qui se demande si la Commission européenne ne va pas nous surprendre en bien à voir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Un jour dans le monde.
Bonsoir Clémentine Fauconnier. Vous êtes chercheuse. Redites bonsoir pour voir.
Bonsoir.
Ah bah non, ça marche pas votre micro. Alors pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faudrait essayer celui d'à côté parce que ce sera peut-être plus pratique.
Est-ce que celui-là marche?
Ah, l'autre marche. Allez-y, recommencez vers celui-là. Voilà, c'est comme à la maison, dites-moi. Allez, Clémentine Fauconnier, vous êtes chercheuse à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié, c'était cette année. Et du coup, ça nous intéresse vraiment, un livre sur Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, parce qu'on est vraiment là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de la Russie, je le disais ce week-end. Comme, l'une après l'autre, les élections locales, c'est un constat. Le parti Russie unie, effectivement, de Vladimir Poutine recule, et notamment à Moscou. Il faut rappeler que les élections locales, c'est 5000 votes ici et là. Donc ça peut être l'équivalent de quoi de conseils municipaux, et parfois un peu au-delà, parce qu'il y a aussi des gouverneurs,
alors,
si on veut résumer.
Oui, un peu au-delà, parce que la Russie est une fédération.
Et les Doumas.
Voilà, la Russie est une fédération et donc du coup il y a un niveau de souveraineté au niveau des régions. Voilà, c'est comme aux États-Unis s'il y avait des élections au niveau des États, donc il y a quand même des lois qui sont votées.
Il y a d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et donc du coup c'est aussi donc des gouverneurs et des assemblées régionales avec des députés donc qui peuvent faire voter des lois à nouveau.
Alors on a dit donc un recul du parti de Vladimir Poutine, une stratégie inédite de l'opposition. En tout cas c'était le cas à Moscou avec Alexei Navalny qui dit puisque nos candidats ont été interdits de se présenter, ce qui effectivement était le cas, eh bien ce que vous allez faire maintenant c'est voter pour celui qui a le plus de chances de surpasser Vladimir Poutine. C'est lui, cette descente, on va dire, notamment à Moscou. Est-ce que c'est sa stratégie qui a fonctionné réellement?
Oui, on peut supposer en effet que c'est sa stratégie. Donc, il a appelé le vote intelligent, qu'il avait déjà un petit peu expérimenté en 2011, avant les élections législatives. Il avait mis en place la même stratégie en appelant les électeurs à aller aux urnes, à ne pas s'abstenir, ce qui en fait arrange bien le pouvoir en général, et à voter pour n'importe quel parti, sauf Russie Unie, donc le parti de Poutine. Et là, cette fois-ci, il a précisé, donc il y avait une application très bien faite où on pouvait donc regarder en ligne quel était le candidat qui était capable de challenger finalement les candidats de Russie Unie, et il a appelé les électeurs à voter en ce sens, et ça a été efficace, en tout cas à Moscou. Voilà. Sinon, pour le reste, il faut quand même dire que c'est une victoire écrasante de Russie Unie, mais ça, c'est comme d'habitude.
Malgré tout, alors c'est bien de le souligner quand même, effectivement, malgré tout, à l'échelle du pays, il ne se passe pas grand-chose de réellement notable, mais quand il se passe quelque chose de ce genre-là à Moscou, est-ce que c'est le reste de la Russie qui éternue ou pas?
Oui, on pourra dire ça exactement, et d'ailleurs, quand il y a eu tout ce mouvement de protestation cet été, qui était pour l'essentiel concentré à Moscou, il y a quand même eu aussi à Saint-Pétersbourg des mouvements importants, et aussi dans beaucoup de régions de Russie, y compris dans des villes beaucoup plus petites, on a eu aussi des petites manifestations, des piquets, comme on dit, en solidarité avec Moscou.
Alors ce qu'on voit, c'est 13 communistes en plus, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en soi? Comment est-ce qu'il faut lire ça, à Moscou, précisément?
Eh bien, ça veut dire, alors pas du tout qu'il y a un électorat communiste particulièrement fort, justement, c'est cette stratégie. Le Parti communiste reste, depuis toujours, le principal parti d'opposition, numériquement, et aussi du point de vue de sa stratégie, sa structure, etc. Alors c'est un parti qui, dans les faits, dont le leader est loyal à Vladimir Poutine, il n'est pas dirigé par un présidentiable, mais il arrive à canaliser depuis longtemps déjà une partie du vote protestataire, c'est un espèce de vote utile en fait. Voilà.
Ça veut dire que l'opposition réellement et la vraie contestation, c'est peut-être ça qu'a compris finalement Navalny, en tout cas pour l'instant, ne peut venir que de l'intérieur en fait.
Oui.
Il faut renoncer pour l'instant à une opposition qui viendrait de l'extérieur.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire pas faire forcément triompher les idées qu'il défend, mais disons avoir plutôt une capacité de nuisance maximale en mettant le régime face à ses propres contradictions et donc en utilisant parfois donc, ce qu'on appelle l'opposition loyale, mais en votant suffisamment, de façon suffisamment importante pour elle, de façon à déstabiliser Russie Unie et à le faire reculer.
Est-ce qu'on dit quand même que Russie Unie a été déstabilisée? Est-ce que c'est aussi important que ça, ce qui s'est passé ce week-end ou pas encore?
Alors oui, on est dans un système qui est tellement contrôlé que n'importe quel grain de sable, en fait, est susceptible déjà de le délégitimer ou de le fragiliser un petit peu.
Puisque ces grains de sable n'auraient jamais dû se produire, en gros.
Voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le système est quand même suffisamment complexe, avec donc cette invention comme ça des oppositions constructives qui fait qu'en fait, il y a plein de sécurités en fait, qui ont été mises en place et qui empêcheraient voilà, une alternance non prévue.
Et en même temps, visiblement, Poutine et Russie Unie l'avaient compris, ça, parce qu'on a vu notamment à Moscou des candidats qui, certains venaient de la société civile, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait campagne sur le nom de Russie Unie, donc ça veut dire qu'ils sentaient quand même le vent du boulet, non ou pas?
Oui, tout à fait. Ça, c'était vraiment un signe de grande nervosité de la part du pouvoir et de la part aussi des autorités de Moscou. Sachant qu'à Moscou, il y a un électorat qui est très spécifique. C'est là où est concentré aussi l'électorat protestataire à bien des égards. Et donc, du coup, c'était un signe de nervosité évident.
Ça, c'est le signe des manifestations hebdomadaires. C'est quand même assez édifiant de voir qu'elles persistent, elles existent et elles vont se poursuivre, ces manifestations hebdomadaires. Donc, est-ce que de ce point de vue-là aussi, il s'est passé quelque chose de différent ces derniers mois? Le point de départ ayant été la réforme des retraites, c'est là qu'on a vu effectivement des gens commencer à sortir dans la rue et puis y rester. Ça veut dire qu'il y a quand même une autre forme d'opposition qui est en train de prendre réellement en Russie, ou en tout cas Moscou, ou pas?
Je pense aussi, alors qu'il se construit sur le très long terme et de façon assez lente, et moi je la ferais remonter encore plus tôt, je la ferais remonter en 2011-2012, en fait, le moment où justement Navalny et d'autres ont commencé à émerger, ont commencé à mettre en place de nouvelles stratégies aussi, comme le vote intelligent par exemple, pour fragiliser le système, et qui ont le talent d'arriver à créer des rendez-vous réguliers, soit autour d'échéances électorales, soit autour d'échéances sociales, comme la réforme des retraites, et arriver à créer des espèces de rendez-vous finalement dans les rues pour arriver à mobiliser le plus de gens possible.
Mais est-ce que ça veut dire que les gens ont moins peur aujourd'hui du pouvoir de Vladimir Poutine quand on sort? Il y a eu beaucoup d'arrestations, et ça se passe pas bien en général quand on se fait arrêter, mais malgré tout, les gens sont dehors. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est passé au-delà de la peur quand même ou pas?
Voilà, je dirais pas forcément moins peur, mais je dirais qu'ils en ont peut-être encore plus marre en fait. Voilà, c'est-à-dire que l'idée que finalement ce système est un petit peu à bout de souffle. Il y a eu un effet Crimée qui a permis au pouvoir, je dirais, de gagner quelques années en fait, mais globalement le système s'essouffle en fait depuis 2012, depuis un petit peu le retour raté de Poutine à la présidence, et qui fait que finalement de plus en plus, notamment des jeunes, c'est eux qui étaient massivement dans les rues, ne craignent pas de sortir.
Et on va en écouter justement, ce que ça nous donnera une bonne idée. C'est Claude Brouillot qui l'a rencontré récemment, Claude qu'on va retrouver dans un instant nous aussi. Il s'appelle Yann Koskas et Claude l'a rencontré lors d'une de ses manifestations. Écoutez ce qu'il dit quand on lui pose précisément cette question: vous pouvez vous faire arrêter, est-ce que vous avez peur?
Tout le monde a peur de quelque chose, et en général, ceux qui ont peur s'enfuient. Bien sûr, dans certaines situations, ça fait peur, et j'ai peur. Mais la question c'est, est-ce que tu arrives à lutter contre tes peurs et tes émotions pour pouvoir continuer ce que tu as décidé de faire? Bien sûr, après l'assassinat de Boris Nemtsov et l'agression contre le journaliste Oleg Kachin, tout le monde a eu peur. Mais tant que nos peurs ne se transforment pas en fuite, nous continuons.
Tant que nos peurs ne se transforment pas ensuite, on continue. Elle est intéressante, cette phrase. Est-ce que ça veut dire que dans la tête des gens comme ce jeune Constantine, il y a un après-Poutine? On le voit, en fait. Jusqu'à présent, on le voyait pas. Là, ça y est, on voit qu'il peut y avoir quelque chose après. Est-ce que c'est ça que ça veut dire aussi?
Oui, c'est ça. 2024, c'est une date, donc la date de la fin de ce mandat de Vladimir Poutine. Et la Constitution ne l'empêche pas de faire d'affilée un troisième mandat après son retour, depuis son retour en 2012. Et c'est une date que tout le monde a à l'esprit, au moins déjà depuis sa réélection en 2018, et qui est vraiment vue comme une échéance un petit peu par tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, ça joue forcément sur la vision politique des uns et des autres.
Alors, il y a eu un autre moment clé ce week-end, c'est celui des échanges de prisonniers entre Russie et Ukraine. Et Ukraine, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais en fait, peut-être qu'on peut trouver aussi des liens intéressants entre les deux choses. Bonsoir à vous, Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Le correspondant de France Inter à Moscou, évidemment. Donc rien à voir avec les élections, d'accord, mais quand même aussi avec l'état du patron du Kremlin en ce moment, finalement. Il y a des choses qui ne pouvaient pas avoir lieu, peut-être à un autre moment.
Oui, il y a un lien dans la mesure où il y a une symbolique. Le Kremlin a finalement dit oui à la libération d'opposants, mais d'opposants ukrainiens, précisons-le, la nuance est d'importance, d'opposants ukrainiens. D'ailleurs, en faveur de qui une petite partie de la société civile ici à Moscou s'était mobilisée, des militants d'opposition pour la défense des droits de l'homme, partisans de davantage de liberté d'expression, que l'on a retrouvé d'ailleurs régulièrement sur les manifestations cet été dont vous parliez, et qui se sont sûrement aussi... Fabienne, sentie encouragée par ces libérations d'avant-hier, obtenues pour une part importante grâce à la pression internationale exercée sur le pouvoir russe, et ça ne leur a pas échappé. Mais à mon avis, la comparaison, elle s'arrête là, d'abord parce que le Kremlin a aussi gagné quelque chose, il a obtenu le retour de ses prisonniers dans ce qu'on pourrait appeler une séquence diplomatique, on va y revenir. Ensuite, il reste une trentaine d'Ukrainiens qui n'ont pas été libérés, qui seront sûrement à un moment ou un autre modèle d'échange. Et enfin, la donne est complètement différente, Fabienne, dès lors qu'il s'agit d'opposants russes emprisonnés cette fois. Là, il est beaucoup moins question de monnaie d'échange, il est surtout question d'appliquer des règles pour faire des exemples, avec souvent totale disproportion entre l'éventuelle faute commise et la peine encourue. Pour vous donner un ordre d'idée, un opposant russe qui participait à une manifestation interdite par le pouvoir cet été a pris 3 ans d'emprisonnement, 3 ans de prison ferme, donc, parce qu'il avait, écoutez bien, tenté de relever la visière du casque d'un policier anti-émeute, sans parler, encore une fois, du traitement infligé dans nombreuses prisons où le problème de la torture est considéré, y compris d'ailleurs par les autorités, comme un véritable fléau ici.
Et d'où l'importance, je le disais, des manifestations. Quand on entend ce que vous dites sur les plaintes, ça donne une idée aussi du courage de ceux qui, toutes les semaines, y vont, quoi qu'il en soit. Vous avez parlé d'une séquence diplomatique, Claude, également. Évidemment que ça nous a pas échappé. Cet échange, c'était aussi le préalable à toute discussion, et à toute discussion notamment avec la France. C'est bien aussi ce qui s'est passé ce week-end.
Absolument, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui a appelé cet après-midi à Moscou une fenêtre d'opportunité. Cet échange de prisonniers devait donner en quelque sorte un signal de bonne volonté entre Kiev et Moscou. On va dire que l'objectif est atteint, mais je ne veux pas dire qu'on a fait le plus facile, surtout quand on pense aux années d'emprisonnement passées par les uns et les autres. Mais relancer l'application des accords de Minsk concernant le conflit dans le Donbass, puisque de cela dont il s'agit, ça signifie d'abord faire taire définitivement les armes de part et d'autre. Et là, le cessez-le-feu semble tenir plus longtemps que d'habitude. Mais on va devoir sûrement reparler très bientôt d'une force de maintien de la paix dans le Donbass. Et là, je peux vous dire que vu de Moscou, les choses vont sûrement être plus compliquées.
Merci beaucoup, Claude Brouillot. Clémentine Fauconnier, pour revenir à ce que disait Claude à l'instant, en France, on parle de tourner la page d'une défiance stérile. Ce sont les mots qui ont été employés par Jean-Yves Le Drian. On voit bien l'intérêt que peut avoir la France. On marche un peu sur des œufs, mais on voit bien l'intérêt que peut avoir la France de peser, y compris dans d'autres dossiers, si on se rabiboche avec Vladimir Poutine. Lui, pourquoi pour lui c'est important de ce rabibochage avec la France? Qu'est-ce qu'il a raté qui fait qu'il est obligé maintenant d'aller retrouver les grandes puissances comme la nôtre, en tout cas les puissances comme la nôtre?
Depuis toujours, je pense, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, l'objectif pour lui c'est aussi d'être respecté par la communauté internationale, et le calcul ou la représentation qu'il a du monde, c'est que pour être respecté, il faut être craint. Et donc voilà, d'où l'idée d'alterner entre à la fois des moments où clairement il montre les dents, il annexe l'Ukraine, etc., il intervient en Syrie contre l'avis de beaucoup de puissances occidentales, mais le calcul toujours c'est de pouvoir être mieux respecté et accepté finalement par la communauté internationale, et notamment les puissances occidentales.
Mais est-ce que vu de l'intérieur, c'est pas un pari perdu au fond, parce que le discours que Poutine donne aux Russes, c'est de dire restaurer la grande Russie, regardez comme nous sommes forts, on nous attaque de toutes parts mais nous allons résister, et c'est pour ça d'ailleurs que de votre côté il faudra faire des sacrifices, sauf que désormais les Russes veulent plus les faire, ces sacrifices, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu sur lequel, une corde on va dire, sur laquelle Poutine ne peut plus tirer aujourd'hui avec sa population?
Voilà, c'est ça. L'effet Crimée a vraiment été utilisé jusqu'à la corde, comme vous venez très justement de le dire. Et je pense que notamment la fin des sanctions, la levée des sanctions permettrait justement...
Alors on n'y est pas, d'abord.
Non, voilà. Mais disons de faire un geste dans ce sens, et aussi stratégique pour des raisons de politique intérieure.
Alors, et en revanche, vous avez évoqué la Crimée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en parle pas dans ces négociations-là. On n'en reparlera plus. Oui. C'est terminé, non? La Crimée est russe. Le dossier est clos, définitivement clos.
La Crimée, à mon avis, vu l'importance symbolique immense que ça a pour la Russie, en tout cas, il me semble que du point de vue de Vladimir Poutine et des dirigeants russes, c'est impossible de négocier là-dessus. Voilà. Donc du coup, l'ont bien compris.
Et nous avons, nous aussi, considéré que c'était pertes et profits, non?
Il me semble aussi. Ouais.
Est-ce que dans notre manière, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que aux yeux des Russes, on a l'impression qu'on entrevoit un après-Poutine, et c'est peut-être aussi pour ça que ça donne certaines velléités? Est-ce que c'est vrai aussi de notre part, nous la France, mais également le format Normandie qui va être mis en place, est-ce qu'au fond, nous aussi, on voit un après et on est en train de placer des billes sur ce qui peut se passer derrière?
On place des billes aussi, je pense, sachant que pour l'instant, l'après-Poutine est très très flou, puisqu'on suppose qu'il va bien y avoir un scénario qui va permettre une continuité du régime, qu'il soit efficace ou non.
Mais une espèce de coup à la Medvedev, vous pensez qu'il y en a encore un dans la manche de Poutine, vous pensez vraiment? Que ce soit celui-là ou un autre, en fait.
On peut supposer qu'il y a sans doute un scénario, en tout cas, qui est préparé. Mm-hmm. Qui fonctionne ou pas, ça, on verra bien, mais je ne les vois pas improviser, en tout cas, sur un sujet de cette importance.
Vous nous rappelez les prochaines échéances, donc ce qu'il faut suivre maintenant pour voir si ce début de frémissement qu'on a vu là pouvait se poursuivre. Les prochaines échéances, c'est quoi ?
Alors, des élections partielles régionales, il y en a tous les ans, au début du mois de septembre. Voilà. Et ensuite, les prochaines élections à la Douma, donc législatives, elles auront lieu en 2021. Donc d'ici 2 ans.
Donc ça nous laisse une petite marge, ça laisse le temps pour que beaucoup de choses puissent bouger et se mettre en place. Clémentine Fauconnier, chercheure à l'université Panthéon-Sorbonne, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Russie unie, le parti de Vladimir Poutine », édité chez ?
L'édition du Septentrion.
L'édition du Septentrion, absolument. Merci beaucoup.
Merci. Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde en Inde avec une association qui tente de repousser le désert, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs en ce moment. Amélie Perrier est là pour le bruit du monde aussi sous les radars. Bonsoir Amélie.
Bonsoir. En Éthiopie, une prison connue pour avoir été le théâtre de torture ouvre ses portes au public.
Le monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Phillips. C'est la rentrée parlementaire, Grégory.
Oui, la rentrée du Congrès et de plus en plus de démocrates qui aimeraient bien destituer Donald Trump.
Et on verra si ça a une chance de marcher à tout à l'heure, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Et si la Commission européenne nous prouvait qu'elle servait à quelque chose?
Rêvons un peu, et voilà. Si cette nouvelle commission dévoilée demain avait de la gueule?
Et on verra ça ensemble, il sera autour de 18h55. Merci beaucoup. À tout de suite tout le monde, le tour du monde n'est pas fini, il passe par l'Ouganda, tiens, avec le regretté Geoffrey Oyirama. Oyirama, dans l'ordre. Le bruit du monde, c'est le bruit de l'eau ce soir et nous sommes en Inde. Depuis le 2 septembre, donc la semaine dernière, se tient une importante conférence de l'ONU sur le climat qui doit trouver des solutions à la désertification des terres, déforestation, surexploitation des ressources en eau, changement climatique à terme, migration forcée. On le connaît, le combo. En Inde, on parle d'un tiers des terres. Une association appelée Water Organization Trust essaie de repousser le désert. Sébastien Farcy a rencontré ces gens et nous sommes dans l'ouest du pays.
There is not a single tree in 1999.
Ah, donc avant 1999, il n'y avait pas un seul arbre. Ils ont tous été plantés justement par ce travail volontaire.
Trunk of that particular tree. You can see the life of the tree and the size of trunk.
Ouais, donc on voit, il y a énormément d'arbres en fait hein, sur toute cette petite montagne qui surplombe le village. Énormément d'arbres qui retiennent donc la terre, qui évitent qu'elle parte en cas de pluie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Can you introduce yourself?
Je m'appelle Prashant Kalashkar. Je suis un ingénieur civil spécialisé dans le développement. Je suis responsable adjoint de cette zone de l'État du Maharashtra pour l'association Water. Il y a 20 ans, j'ai mis en place le programme de gestion du bassin de ce village de Vankute pour éviter l'érosion des sols et préserver les ressources en eau.
Il veut nous montrer le barrage qui a été construit pour retenir les eaux.
This dam wall was built in the project. This is called as a gabion structure.
Nous avons construit cette structure dans le cadre de notre projet. C'est un gabion. Ce sont des pierres retenues par des câbles. Cela permet de ralentir le flot de cette rivière et limite ainsi l'érosion des sols et laisse ainsi le temps à l'eau de s'écouler dans les ruisseaux adjacents pour recharger les puits et les nappes phréatiques.
Ce petit village de Vankute se trouve à 400 km à l'est de Bombay, dans une zone semi-aride. Il y a 20 ans, ici, les agriculteurs arrivaient à peine à faire pousser une récolte par an de millet ou d'oignons. Ensuite, pendant plus de 6 mois, leurs terres étaient inutilisables car il n'y avait plus assez d'eau dans les puits. L'association Water est donc venue en aide à ces villageois. Avec eux, l'ONG a d'abord construit ses différents barrages, puis commencé à reboiser la forêt en amont du village pour qu'elle retienne la terre et les eaux. Il est devenu alors interdit de couper des troncs d'arbres ou d'envoyer les chèvres brouter les jeunes pousses. Des mesures qui n'ont pas été faciles à appliquer, mais qui ont payé. C'est ce qu'assure Bajirao Baban Ande, trésorier du comité de gestion de ce projet dans le village.
Avant, nous n'avions pas assez d'eau à boire pendant l'été. Nous dépendions de camions-citernes qui s'arrêtaient à 2 km du village. Maintenant, cela n'arrive plus. Nous pouvons même avoir une deuxième récolte pendant la saison chaude et vendre ces aliments. Cela a aussi réduit les migrations. Avant, 80% des habitants partaient travailler hors du village pendant l'été, dont une partie à Bombay. Maintenant, à peine 10% des villageois vont travailler dans les villages voisins et quasiment plus personne ne migre à Bombay.
L'ONG Water a ainsi aidé 17 villages de la zone à lutter contre la désertification de leurs terres et fait le même travail dans 6 autres États indiens. Mais au niveau national, la dégradation continue et chaque année, elle touche 145 000 hectares de terres supplémentaires. La principale raison est la surexploitation des nappes phréatiques. Le gouvernement indien fait peu de choses pour freiner cela. Au contraire, il subventionne l'utilisation de pompes à eau pour l'arrosage, ceci sans limite. Cette vision doit maintenant changer, selon Marcela De Souza, directrice du centre d'études de l'association Water.
L'Inde est frappée de plein fouet par le changement climatique et cela fragilise les terres. Nous sortons de 2 années de sécheresse et les gens sont donc conscients qu'il y a quelque chose à faire. Nous espérons que cette conférence permettra de sensibiliser la population et mobilisera tous les acteurs afin de mieux respecter nos ressources. Et surtout, ce sera l'occasion de revoir nos pratiques agricoles et notre gestion de l'eau.
This would include how we look at agriculture, how we also manage water.
Jusqu'au 13 septembre, l'Inde préside donc cette conférence de l'ONU pour la lutte contre la désertification. Le pays s'est déjà engagé à restaurer 5 millions d'hectares de terre d'ici à 2030.
Sébastien Farcy pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Sébastien. Le bruit du monde quand il passe sous les radars est rattrapé par Amélie Perrier. Et voici ce que ça donne. Ce bruit-là, Amélie, c'est un souvenir insoutenable, c'est un souvenir de torture dans une prison. Nous sommes en Éthiopie.
Et oui, sur cette vidéo, difficile à regarder, hein. Un prisonnier, les jambes attachées, reçoit des coups de bâton sur la plante des pieds, on l'entend supplier. Cet homme était détenu à Mae-Kelawi, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une prison que tout le monde connaît là-bas pour les traitements inhumains infligés par les geôliers. Elle a été fermée il y a un an. Écoutez le témoignage de Befekadou Aïlou, c'est un blogueur opposant, lui aussi a été torturé à Mae-Kelawi. On a été interrogés. La méthode, c'est un harcèlement physique et psychologique. Après, on retournait dans une pièce fermée, toute la journée, cloîtrée. Il nous mettait la lumière seulement 10 minutes par jour. On avait le droit d'aller aux toilettes 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Alors voilà le calvaire de cet ancien opposant recueilli par Africa Live et ses larmes ensuite quand il apprend la fermeture de Mae-Kelawi. Le gouvernement a décidé aujourd'hui de rouvrir les portes de ce centre détention, mais cette fois pour le visiter, pour ne jamais répéter les châtiments cruels et dégradants dont ont été victimes des prisonniers politiques pendant des décennies. Et à terme, il faut en faire un musée, a dit le gouvernement. Le premier ministre actuel, Abiy Ahmed, depuis sa prise de fonction il y a un an et demi, œuvre sans relâche pour tourner la page de ses années noires. Il a libéré les opposants enfermés, il a fermé cette prison, symbole du régime brutal, régime militaro-marxiste dans les années 70 et 80. Des gages qui ne convainquent pas tout à fait quand même les défenseurs des droits de l'homme. Car depuis la tentative de coup d'État contre le gouvernement, c'était en juin dernier, qui a coûté la vie à des hauts responsables, dont le chef d'État-major, eh bien le Premier ministre a changé de braquet et adopté des mesures répressives, les mêmes que ses prédécesseurs, disent les opposants.
En Amérique centrale, Amélie, le Honduras, lui, souffre d'une sécheresse exceptionnelle.
Un lac a même quasiment disparu, le lac Jocutuma. C'est un trésor de la nature, 400 hectares, un joyau de biodiversité. Mais aujourd'hui, il n'en reste qu'une grande flaque et des terres craquelées. Le Honduras souffre d'un manque d'eau sévère. De nombreuses villes sont privées d'eau potable. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer leurs terres. Le bétail meurt de soif. Les pêcheurs comme Oscar Castro sont désespérés. Là, il nous dit on vit de la nourriture qu'on trouve dans le lac. On pêche pour subvenir à nos besoins. Le lac est en train de disparaître. Et on s'en remet à Dieu pour que ça n'empire pas. L'État reconnaît l'urgence et met des plans d'irrigation en œuvre, mais tous les Honduriens attendent surtout la pluie aujourd'hui.
Allez, Amélie, on connaissait les bars à chats, hein, qui sont très à la mode. Les Chinois innovent, ils viennent d'inventer les bars à canards.
Oui, vous savez.
Sérieusement.
Oui. Vous les entendez là. Voilà. Ce sont des bars, hein. Donc, où les clients paient pour aller caresser un chat, normalement. Mais ici, le propriétaire a eu l'idée de décliner le concept avec, donc, des canards. Et il nous dit, Liu Yaoshi, le cofondateur du lieu, tout le monde aime les canards, c'est le micro de l'AFP. J'ai commencé en élevant un caneton jusqu'à l'âge adulte, alors j'ai pensé que c'était possible d'ouvrir un café à canards. Et il ajoute, j'ai le même concept avec des cochons nains. Oui, il a plein d'idées, ce chinois. Il a le sens des affaires, il habite à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Ses compatriotes ont une passion pour ces lieux où l'on sirote son thé ou son café en caressant des bêtes. Les canards de Liu sont quand même des spécimens rares, faut se souligner. Une race originaire d'Europe, ils valent chacun l'équivalent de 1300 euros quand même. Alors pour passer une heure et demie avec eux, si ça vous intéresse, Fabienne, il faut s'acquitter d'une dizaine d'euros. Voilà, c'est pas gratuit l'amour des bêtes.
Non, ça casse pas trois pattes votre info. Oui, pardon, je suis désolée.
J'étais obligée de la faire.
Oui, ça, un petit peu, fallait. Amélie, à demain.
À demain.
Isnabis Pop, Iggy Pop, et la chanson s'appelle James Bond.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a
be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.
Bien compris qu'il fallait la laisser être son James Bond. Si c'est vraiment ça dont elle a envie, il y a zéro problème. Allez, Iggy Pop sur France Inter.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le Monde selon Trump, saison 3, et Grégory Phillips, comme tous les lundis, vous êtes à New York ce soir. Grégory, vous avez de la chance. Et l'actualité chez vous aujourd'hui, c'est donc la rentrée parlementaire, après les vacances d'été, et un serpent de mer qui revient, l'éventualité d'une procédure de destitution contre Donald Trump.
Oui, alors on n'en est pas encore là, hein, mais c'est vrai que les démocrates sont de plus en plus nombreux en cette rentrée du Congrès à vouloir déclencher une telle procédure. Écoutez, c'était samedi soir sur CNN.
This is the breaking news here on CNN. A House panel to make formal steps on impeachment probe starting next week. Manu said.
Et le journaliste Don Lemon explique donc que le comité judiciaire de la Chambre des représentants doit se prononcer cette semaine, peut-être mercredi, sur un projet de résolution qui officialiserait l'ouverture d'une enquête sur des malversations de la part du président. Étape importante donc, Fabienne. Désormais à la Chambre, il y a 135 représentants qui sont favorables à cette procédure de destitution, et parmi eux l'élu du Tennessee, Steve Cohen, qui dit ceci.
There's no question he's committed innumerable impeachable offenses.
Il ne fait aucun doute qu'il a commis d'innombrables infractions. Maintenant, il doit être destitué et nous devons aller au-delà d'une simple enquête vers donc son remplacement. Alors, Fabien, le représentant Cohen parle d'obstruction à la justice. Il y a aussi, vous le savez, la question de l'argent versé à une playmate afin qu'elle taise la relation qu'elle avait eue avec Trump avant qu'il ne soit président. C'est ça les dossiers qui sont sur la table.
Alors, d'accord, mais la question, évidemment, c'est surtout de savoir si les démocrates vont y aller ou pas. Et c'est la présidente de la Chambre, donc c'est Nancy Pelosi qui va trancher.
Ouais, en fait, c'est une question de stratégie politique. On sait que Pelosi n'est pas favorable au déclenchement d'une mise en accusation, en tout cas pas pendant une année électorale. Et en vérité, eh bien, parce qu'elle sait que ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Pour l'instant, on le disait, il y a 134 représentants démocrates plus un républicain, donc 135 au total, qui sont en faveur d'une telle procédure. La majorité à la Chambre, c'est 218. Et puis l'étape d'après, Fabienne, ce serait évidemment le Sénat. Mais là, avec une majorité républicaine, il y a zéro chance que Trump soit inquiété. Et donc, il y a un gros risque risque pour les démocrates de se lancer dans une bataille qui, en vérité, est perdue d'avance.
Alors, en bref, les suites du Sharpiegate, Grégory, en français, Sharpie, ça veut dire marqueur. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, beaucoup ri sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui avait, au marqueur noir, rajouté l'Alabama sur la route de l'ouragan Dorian.
Oui, vous avez suivi cette polémique qui dure depuis quasiment une semaine. Dans une déclaration aux journalistes, Trump avait dit que cet état d'Alabama était menacé par l'ouragan. En fait, c'était plus tout à fait vrai. Donc le lendemain, le président avait présenté une carte météo sur laquelle il avait lui-même ajouté au marqueur noir cet état du Sud. Trump, très énervé par la polémique, qui a même exigé des services météo américains qui lui donnent raison. Et la suite de cette histoire, Fabienne, c'est donc que la fille du président, Ivanka Trump, est attendue demain en Alabama pour une visite qui n'a rien à voir. Mais les commentateurs aujourd'hui ironie sur le fait que la fille préférée du président va sur place pour mesurer des dégâts qu'ils n'ont jamais eu.
Et puis tiens, à propos d'Ivanka, puisqu'elle est là, est-ce qu'elle est appelée à suivre les pas de son père en politique? Est-ce que Donald Trump est le premier d'une dynastie à la Maison-Blanche?
Alors, c'est en tout cas ce que prédit le directeur de campagne 2020 de Trump. Cette famille est une dynastie politique qui va s'installer au pouvoir pour des décennies, a-t-il annoncé ce week-end devant des militants républicains en Californie. Un peu peut-être sur le modèle des Kennedy. D'ailleurs, Fabienne, le magazine The Atlantic pose très sérieusement la même question dans un gros dossier apparaît de ces jours-ci. Comment Ivanka et Don Jr., l'un des fils du président, se battent pour succéder peut-être un jour à leur père.
Voilà, pour expliquer que ça s'est pas forcément toujours bien passé pour les Kennedy. Je sais pas si c'est une bonne référence. Grégory Phillips avec nous depuis New York. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit présenter son équipe demain. Sa composition devra encore être avalisée par le Parlement européen le mois prochain. Généralement, on regarde ça d'un œil un petit peu distrait sur la nomination de certains technocrates dont on retiendra jamais le nom. Mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, vous êtes plutôt séduit. Et si on avait enfin une commission utile?
Bon, alors c'est quand même un peu vachard forcément de poser la question dans ces termes, parce que la Commission européenne, malgré tout, a plusieurs fois servi à quelque chose ces dernières années sur la concurrence, les frais de téléphonie, etc. Mais c'est vrai qu'on conserve la sensation d'être face à un machin technocratique. Hein. Et en plus, dans le cas de Ursula von der Leyen, on ne peut pas oublier qu'en juillet dernier, sa nomination s'est opérée au forceps, vous vous souvenez. Elle n'était pas le premier choix. Et puis son image est plus celle d'une bosseuse appliquée que d'une politique créative. Donc pour toutes ces raisons, on pouvait s'attendre au pire. Et surprise, le résultat des courses, qui sera officiellement dévoilé demain, semble plutôt séduisant après 2 mois de préparation efficace, discrète. Premier résultat tangible, la parité. Enfin, après 35 ans d'attente, on y est. On annonce 27 commissaires, la présidente incluse, dont 13 femmes. Mais si, c'est possible. Et il y aura plusieurs femmes avec un vrai poids politique. La danoise Margrethe Vestager, la française Sylvie Goulard, qui devrait s'occuper du marché intérieur, voire de l'industrie, poste clé. Et aussi la finlandaise Urpilainen ou la tchèque Jourova. Deuxième résultat, le renouvellement. Sur les 27 commissaires, seulement 8 appartenaient à l'équipe précédente. Et puis Ursula von der Leyen s'oriente vers une direction collégiale, un partage du pouvoir, si vous voulez, 2 voire 3 vice-présidents, mais qui aurait un vrai champ de compétences, une certaine autonomie. Des nouveaux, des femmes, on sent l'air qui se renouvelle à Bruxelles. Il était temps.
Donc ça, c'est pour la forme. Hein. Néanmoins, oui. Le plus important, c'est quand même le fond. Une nouvelle commission qui pourra imposer quoi que ce soit.
Alors, c'est la grande question, bien sûr. Ce poste de président de la Commission, on le sait, a souvent été qualifié de job impossible, condamné à être une sorte de super secrétaire, un simple arbitre des élégances entre des gouvernements nationaux qui gardaient la main. Mais Ursula von der Leyen n'a pas l'air de l'entendre de cette oreille. Elle semble désireuse de fixer elle-même, avec son équipe, un vrai agenda politique. Elle pourrait s'appuyer sur le Parlement pour passer outre les obsessions de chaque pays. Et on voit bien que d'emblée, elle a empoigné à bras-le-corps 3 ou 4 priorités. Je vous les cite. La première, c'est le Green Deal écologique. Le dossier devrait être confié au Néerlandais Frans Timmermans. À l'ordre du jour, la neutralité carbone en 2050, une taxe carbone aux frontières, peut-être une réduction des gaz à effet de serre de 50% dès 2030. Alors là, l'impact serait majeur pour les transports et l'agriculture. Deuxième priorité, le numérique et l'intelligence artificielle. Le sujet sera sans doute piloté par Margrethe Vestager, donc cette Danoise qui, lors du mandat précédent, s'était opposée aux géants Google et Amazon. Et avec elle, c'est quand même la garantie d'un peu d'éthique dans ce dossier clé. Troisième priorité, l'état de droit, la nécessité aussi de renouer des liens avec les membres turbulents de l'Est de l'Europe, la Pologne, la Hongrie en tête. Et là, la Tchèque Jourova pourrait être chargée de l'affaire. Au final, on a donc en fait un programme de gouvernement, une ambition politique. Ce programme, il peut vous plaire, il peut ne pas vous plaire, mais il a le mérite d'exister et ça, ça nous change.
Donc, cela dit, vu les dossiers qui l'attendent, Ursula von der Leyen n'est pas sortie de l'auberge.
Ça c'est sûr, parce qu'il y a l'embarras du choix sur les dossiers compliqués. D'abord, le Brexit, bien sûr. Bonne chance hein, pour gérer la probable demande britannique d'un nouveau report au-delà du 31 octobre. Il va falloir obtenir une contrepartie solide de la part de Londres. Ensuite, il y a les tensions commerciales, tous azimuts, l'accord controversé avec le Mercosur, les menaces américaines, le poids de la Chine. Il va falloir se montrer ferme, quitte à prendre des risques. On peut ajouter la nécessité de boucler le budget européen pour les 7 années à venir et le besoin de mieux répartir le fardeau de l'immigration. Ça fait beaucoup. Mais vous savez quoi? L'obstacle le plus important, ce sera en fait le même que d'habitude. La tentation des États membres de mettre des bâtons dans les roues de l'Europe pour préserver leurs intérêts locaux. Et ça viendra y compris de l'Allemagne, la patrie d'Ursula von der Leyen. On dit que la nouvelle présidente possède une main de fer dans un gant de velours. Elle va en avoir besoin pour avoir le courage de s'opposer, y compris de s'opposer à ceux-là même qui l'ont choisi.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four tous les jours dans Un jour dans le Monde. Merci beaucoup, nous aussi. Tiens, on parlera de cette commission puisqu'on aura la vraie liste des commissaires demain. On en parlera longuement le 18-20, la suite. Ça se passe dans un instant avec le journal Le Téléphone Sonne.